Auditeur La Voix d'Amérique, nous avons avec nous aujourd'hui par téléphone, président de la République là, Monsieur Joslem Privert. C'est un honneur pour l'accueillir par téléphone dans La Voix de l'Amérique. Président Privert, vous déplacé hier mercredi à au quitté pays d'Haïti ou aller dans la Nations Unies pour signer un protocole qui imposait avec l'environnement. Parlez-nous de l'importance à COSA pour Haïti qui est un pays en développement.
Et effectivement, moi, New York, jusqu'à samedi, dans le cadre d'une invitation du secrétaire général des Nations Unies pour que les 147 chefs d'État et de gouvernement de la planète signent un accord qui aurait le COP21 qui est pour avec le changement climatique qui était discuté, négocié à Paris en décembre dernier. Comme nous connaissons, Haïti, c'est un pays qui est menacé par les catastrophes naturelles. Donc, à prendre un exemple, les cyclones qui sont devenus de plus en plus violents, la sécheresse qui s'est installée dans le pays et des inondations qui passent suspendre faire ravage. Alors que d'un côté, nous avons la sécheresse qui menaçait d'insécurité alimentaire près de 5 millions de citoyens haïtiens. Simultanément, lorsque la saison pluvieuse a commencé, c'est des inondations avec des dégâts considérables en vies humaines et en pertes matérielles. Donc, participer dans un accord qui va permettre à Haïti d'affronter des défis qui sont liés à la régénération de l'environnement, à limiter les gaz à effet de serre, nous croyons que c'est une grande opportunité pour Haïti pour porter contribution dans l'effort que tous les pays du monde a fait pour lutter contre les changements climatiques. Et d'accord, c'est ça qui justifie la présence aujourd'hui dans New York.
Mais Excellence, les Nabega des pays d'Haïti qui parlent un gros niveau d'industrialisation, en plus, on a demandé, à part de phénomènes naturels ou sortes mentionnés là-haut, qu'il y a avec réchauffement planète là, en plus on connaît réchauffement planète là, rien pour ouais, avec production industrielle, gros développement, monde qui a plagué gaz, pays qui a plagué gaz, qui a réchauffé l'atmosphère. Haïti peut-être pas dans le niveau d'industrialisation ça. Et à cause ça, ils ont mis des restrictions, ils ont fixé des limites que monde doit atteindre. Par exemple, gaz quand on méthane, qui a sorti dans le théâtre, et à cause de ça, oui, des bouses de vaches, c'est-à-dire excréments bêtes, tout ça contribue à réchauffement de la terre. Est-ce que Haïti, un petit pays comme ça, qui n'est même pas 11 îles, sont un bout d'île, ils ont un gros impact climatique sous l'environnement lui-même pour aller dans la cause. Le
changement climatique, là, pas concerné seulement gaz à effet de serre. Il y a une action que Haïti doit mener. D'abord, pour diversifier ses sources d'énergie. Par exemple, nous sommes grands consommateurs d'énergie fossile. Donc, il faut nous orienter davantage vers des énergies renouvelables. Mode d'agriculture, nous y a. En même temps, tout, dégradation environnement. Et déboisement dans le pays d'Haïti. Et nous croyons que nous avons obligation d'ici l'horizon 2030 pour nous reboiser 137,5 hectares de terre. Donc, tout ça fait partie de mesures que Haïti doit prendre dans le cadre de cet accord qui n'est pas seulement visé à limiter les gaz à effet de serre, mais qui vient d'autres mesures protectrices de l'environnement. Et c'est ça qui a justifié l'importance ou bien opportunité pour Haïti pour participer à l'accord. Ça, d'autant plus que moi, je dis que Haïti est un pays qui est très vulnérable aux catastrophes naturelles.
Très bien, Excellence. Président Privert, gagnons un fonds de 100 milliards de dollars que l'accord a prévoit pour et des pays en développement, quand au pays d'Haïti. Non, 91 milliards d'euros, ça, ou 100 milliards de dollars. Est-ce qu'on a une idée qui portion Haïti capable de bénéficier pour le capable, justement, entreprendre travail, reboisement, ça? Et m'a dit, j'étais très jeune, dans l'année 80, les fédérations, les amis de la nature, haïtiens, travaillent pour reboiser le pays, et puis le pays a pu déboiser. Ce qui veut dire, des fois, nous signer des accords, nous pas jamais arriver fait appliquer à quoi comme ça doit. Donc, est-ce que vous avez compté son assistance financière, ça, et combien vous supposez Haïti capable de gagner?
M'apprécie la question, là, parce que dans le livre, j'ai écrit sur décentralisation. Moi, j'ai rappelé qu'en matière de catastrophe naturelle, assistance de premier secours, il est toujours venu à temps. Mais le plus gros défi que Haïti toujours affronté, c'est la réponse à apporter aux dégâts après. C'est ça fait que jusqu'à présent, au cas où nous compte après le 6 du 12 janvier, la reconstruction tarde encore à se matérialiser. Au cas visiblement où est tout effet du tremblement de terre. Donc effectivement, dans les années, à la fin des années 70, même Jean Avor, moi-même j'ai participé tout dans des actions de reboisement que la Fédération des Amis de la Nature a fait. Et malgré tout, il y a toujours des boisés. Ne serait-ce que pour répondre à mesure que nous sommes parlé là, mesure contre et recherche d'énergie renouvelable, changer méthode d'agriculture dans le pays, en même temps reboiser le pays, et Haïti aura besoin, selon le document préparé par Haïti, qui est les contributions prévues et déterminées au niveau national, on a besoin d'environ 25,3 milliards de dollars. Ça veut dire que les 100 milliards de dollars ou 91 milliards d'euros qui est prévu à l'échelle mondiale pour aider les pays sous-développés à faire face à ces catastrophes, Haïti à elle seule, ça a besoin de le quart. Ce qui veut dire que, je dis, l'effort qui pour faire là, l'immense, et je crois que nous, en tant que pays, nous-mêmes pour apprendre les mesures qui s'imposent non seulement pour nous répondre à défi ça, mais en même temps tout faire un bon usage des mêmes ressources qui seront mises à notre disposition dans le cadre de cet accord-là.
Eh bien, président Privert, nous pas cacher ta trop sur l'environnement. On est haïtien depuis autant d'années, on a fait une interview avec une personnalité, surtout dans le niveau où, président de la République, bien que provisoire, il y a tant nous que nous posons des questions politiques. Question politique là, justement, c'est Commission vérification électorale, la commission indépendante là, il y a un monde qui a prononcé au contre, il y a un monde qui a prononcé au pour, et communauté internationale là, Mtakadjo, l'idée parle tout vis-à-vis commission ça. Il faut entendre des déclarations ambassadeur Kenneth Merton qui fait dans le micro La Voix de l'Amérique, ça fait à peu près une semaine et demie. Entendez.
On ne peut pas pour nous-mêmes à dire oui ou non à une commission de vérification. C'est un bagage pour le gouvernement Haïti à décider. Mais nous-mêmes, nous qu'à prendre décision tout. Et si commission vérification, ça qu'à prendre un pile temps, si nous n'y pas pressé pour faire évaluation ça, ça pourrait nous forcer de reconsidérer le support que nous prenons à l'élection. Et un bagage qui frappait, c'est que Mounio qui insistait sur commission vérification, c'est Mounio qui pas gagné dans l'élection, dans le résultat. Et il y a un peu de monde qui gagne suspicion que travail commission vérification, ça, c'est pour éliminer peut-être deux des premiers candidats. Et pour nous-mêmes, nous prenons ça avec un pile souci. Si un résultat comme ça se produit. Moun en Haïti, politiciens en Haïti, capables de faire choix, mais nous-mêmes, nous capables de faire choix nous tous, pour oui ou non, si nous pouvons continuer by support d'un processus électoral. Ce que nous t'aimons, c'est que processus la cap avancé. Et faut que nous songeons tout que cette commission au mois de décembre, janvier, qui ont travaillé, ont fait recommandation. Nous t'aimons que recommandation ça soit implémentée par
KEP. Oui. Donc, président Privert, ou tendez ambassadeur Merton, c'est comme quoi, lui, quoi que ça, son commission de plus, parce que le mentionné était en janvier déjà. Et ensuite, lui, quoi que, en pile, on a utilisé commission ça pour t'a éliminer candidat. Qui t'a candidat ça, ou d'après vous-même, que, mon t'a remis ouais, yo éliminé dans la course là, d'après ça, monsieur Merton sort cité là. Donc, réagis pour nous sur point ça, yo. Et parlez de commission, on a qui stade formation lié.
Et m'a vous rappelé que, après premier tour élection, t'es fait 25 octobre. T'es bon deuxième tour qui était programmé pour 27 décembre. Qui pas arrivé fait. Il était reprogrammé pour 24 janvier. Et le 27 et le 22 janvier, le gouvernement a décidé de reporter sine die le deuxième tour des élections. Ça veut dire, c'est un problème. Quel était le problème? Rappelons que depuis la publication des résultats, en pile parti politique prend la rue à critiquer résultat, à demander vérification du processus électoral. Et c'est justement en réponse à préoccupation ça, à revendication de tout acteur politique que en décembre, président Martelly émettait une commission d'évaluation indépendante, une commission électorale d'évaluation, une commission d'indépendance d'évaluation électorale. Et pas oublier que dans le rapport commission ça émettait dehors, même lorsque le pas parle clairement de fraude, il était dit que le constatait en pile irrégularité grave et il demandait une vérification approfondie de ces irrégularités graves. Et c'est-à-dire cette commission, même pour qu'on parle, il était déjà mandé cette commission de vérification. Bien plus, il est sans reporter sine die. Les mêmes causes qui étaient portées au gouvernement à reporter sine die les élections sont encore là et présentes et aucune réponse n'a été donnée à ces revendications et à ces questions. Deuxièmement, dans le cadre du mandat provisoire que nous avons, nous avons obligation pour nous consulter l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. Au cours de ces différentes consultations, tous les acteurs généralement quelconques rencontrés, tout unanimement mandé cette commission de vérification comme condition pour garantir la crédibilité du processus électoral. Donc, il est matériellement impossible pour relancer les élections sans créer ces conditions devant garantir la crédibilité du processus électoral. Le conseil électoral que nous avons gagné pour nous former dans le cadre de ce mandat, lui-même tout, lui-même déclarer que lui fait face à un blocage politique. Président de la République, en strict respect à l'article 136 de la Constitution qui fait obligation au président de la République d'assurer le bon fonctionnement des institutions, moi je dois travailler pour me lever blocage politique ça. C'est ça qui fait pendant toute la semaine dernière. Moi j'ai entrepris encore des consultations avec tous les acteurs politiques, généralement quelqu'un. Aucun acteur n'a été laissé de côté. Certains ont décidé de ne pas participer à ces consultations. C'est au cours de ces consultations, nous arrivons à élaborer les thèmes de référence de cette commission qui sera une commission purement technique. Et monde qui forme la commission, ça, c'est des monde que des organisations de la société civile déléguées ou désignées qui n'ont aucune attache politique. Et je voulais croire qu'une fois cette commission mettait le travail avec des personnes crédibles et son rapport, et d'ailleurs ce qui est nouveau, c'est que tous les acteurs politiques qui ont participé pendant cette série de consultations à l'élaboration des thèmes de référence, tout unanimement dit, ils ont engagé à respecter les recommandations et les conclusions de la commission de vérification. Cette commission aura un délai de deux mois pour compléter la vérification du processus électoral. Et le Conseil électoral lui-même est déjà annoncé l'attendre rapport de cette commission de vérification qui vient un mois pour faire travailler, pour lui élaborer son calendrier électoral. Donc, on voit que c'est des actions significatives qui faites dans le cadre de redonner au processus électoral toute sa crédibilité et permettre à l'acteur de faire confiance à processus électoral. Sans cette crédibilité, les élections peuvent se tenir, mais la stabilité politique ne sera pas garantie. La stabilité politique indispensable au développement économique et social de ce pays exige que des élections crédibles soient organisées et c'est de cette seule façon que Haïti, une fois pour toutes, qu'a sorti de la crise électorale que le pays a fait à chaque fois que nous organisons des élections dans le pays d'Haïti.
Oui, monsieur le président, président Martelly l'autre jour, lui paraît les conlettes, on laisse ouvrir côté Lydie ou pas respecter l'accord 5 février, qui sont capables de répondre président.
Bon, nous la constitution, il y a un article qui garantit les droits et libertés. son droit que tout citoyen haïtien gagne pour exprimer la liberté d'expression. L'ancien président Michel Martelly, aujourd'hui citoyen Michel Martelly, comme tout autre citoyen, a droit pour le parler. Et je n'ai pas qu'une réaction que j'ai gagné par rapport à 10 millions de citoyens qui ont exprimé sous vie politique pays. C'est comme ça que je me pose la question là.